Pendant qu'ils, donc Jésus et les disciples, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus leur dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, tu nous montres ta gloire non seulement dans les cieux et sur la terre, mais aussi dans la loi, les prophètes et l'Évangile, où tu révèles de manière aussi intime ta personne en ton Fils unique. Nous ne pouvons plus nous excuser de ne pas te connaître. Accorde-nous maintenant d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir à toi et à te suivre. Puissions-nous nous attacher fermement à toi. Que les erreurs, les mensonges du monde ne nous détournent pas de toi. Que nous puissions rester fermes au contraire dans ta parole qui ne peut pas nous décevoir. Lorsque tu reviendras bientôt, nous jouirons de ta gloire face à face, tout à fait conforme à toi. C'est là notre espérance et notre assurance. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Trois mois et demi. Frères et sœurs, cela fait trois mois et demi que vous avez certainement pris vos bonnes résolutions de 2025. Parmi vos bonnes résolutions, il y a peut-être celle d'aller à la salle de sport, au gym. C'est le cas de nombreuses personnes. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Y allez-vous aussi régulièrement que ce que vous aviez prévu? Parmi vos bonnes résolutions, il y avait aussi peut-être celle de vivre une vie meilleure qu'en 2024. Au 31 décembre, vous avez remarqué tous les péchés que vous aviez commis l'année dernière, vous les avez considérés, vous vous êtes repenti et vous vous êtes dit en 2025, je veux avoir une vie meilleure. Mais où en êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous atteint vos objectifs? Êtes-vous en bonne voie? Ou êtes-vous déjà déçu de ne pas avoir réalisé ces bonnes intentions? Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous nous mettons dans cette dernière catégorie. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler comment suivre Jésus? Nous allons étudier la notion du discipulat. Nous allons découvrir ce que coûte vraiment le fait de suivre notre Seigneur. Alors, nous verrons ce matin que l'appel de Jésus est tout d'abord un appel coûteux, ensuite un appel urgent, mais surtout, troisièmement, un appel important. Alors tout d'abord, premièrement, au verset 57 et 58, nous découvrons que l'appel de Jésus est un appel coûteux. On se remet rapidement dans le contexte de ce passage. Jésus vient d'être reconnu par ses disciples comme étant le Messie, le Christ qui devait venir. Le Christ, c'est le Sauveur du monde que Dieu a promis. Alors les disciples ont été pleins de joie, ils se sont réjouis. Ils pensaient que l'heure de la délivrance des Romains arrivait. Mais Jésus leur a ensuite annoncé plein de souffrances, des moments difficiles par lesquels passer. Après cela, Dieu a rassuré les disciples avec la transfiguration de Jésus. Jésus est devenu d'une éclatante blancheur, d'une royale majesté. C'était l'assurance pour les disciples que le temps de la royauté de Jésus allait venir après ses souffrances. Maintenant, les disciples sont encouragés à suivre celui qui va souffrir avant de recevoir la royauté sur le monde. Les disciples continuent de suivre Jésus et pendant qu'ils sont en chemin, quelqu'un dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Verset 57. Un homme veut devenir un disciple de Jésus. Et voilà qu'il lui fait donc cette promesse remarquable. « Je te suivrai partout où tu iras. » Pourquoi cet homme fait-il une telle promesse? Peut-être pour les mêmes raisons qui poussent de nombreuses personnes à suivre Jésus. Ou du moins à le considérer comme quelqu'un de remarquable. Peut-être qu'il apprécie simplement le bien que Jésus fait à travers ses miracles, ses guérisons, ses multiplications des pains. Peut-être aussi qu'il apprécie simplement l'enseignement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, que c'est agréable. Peut-être aussi qu'il aime la compagnie de Jésus et des disciples. Et peut-être encore qu'il veut toutes les bénédictions qui sont pour ceux qui suivent Jésus. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il veut suivre Jésus, Jésus lui répond, et il lui répond de manière très directe. Il lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Alors qu'est-ce que dit Jésus à cet homme? Jésus lui dit qu'un disciple de Jésus, un vrai disciple de Jésus, doit compter ce qu'il en coûte de le suivre. Jésus n'a rien, absolument rien. Il n'a aucun confort matériel. Il n'a pas d'endroit où se sentir chez lui. Il n'a littéralement que les vêtements qu'il porte. Et d'ailleurs, peut-être que ces vêtements qu'il porte, il les reçoit ou il les achète grâce à l'argent des autres. Un disciple de Jésus doit donc être prêt à renoncer à tout, même à son confort personnel, pour suivre Jésus. Suivre Jésus, cela implique le renoncement et le sacrifice de soi. Alors nous, sommes-nous prêts à renoncer à tout pour Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à tout lui donner? L'instabilité économique actuelle est très révélatrice, parce qu'elle provoque beaucoup d'inquiétudes dans le monde qui nous entoure. Et cette inquiétude nous montre à quel point nous sommes tous attachés à notre confort matériel ici-bas. Dans ce texte, Jésus nous appelle à sortir de notre zone de confort. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, par exemple, pour nous bosserons, cela pourrait consister, par exemple, justement, à sortir de la Beauce et à aller faire une semaine d'animation dans un camp biblique ailleurs au Canada, ou peut-être aussi à faire une mission à l'étranger. À travers ces expériences-là, Dieu, Jésus, va peut-être nous révéler des choses extraordinaires sur lui-même. Il va faire augmenter notre confiance en lui et nous aider à mieux lui obéir. Voilà une manière de sortir de notre zone de confort. Peut-être qu'aussi nous avons besoin de sortir de notre zone de confort économique, financier. Dans ce cas-là, nous devrions peut-être réfléchir à accepter un travail moins bien rémunéré, si cela nous aide à venir à l'église le dimanche matin et adorer Dieu avec toute l'assemblée. Cela implique aussi peut-être, de manière beaucoup plus émotionnelle, à renoncer à une relation à laquelle on tient. Peut-être que cette relation, c'est une personne qu'on aime. Peut-être que c'est une personne avec qui on souhaite passer le restant de nos jours. C'est une personne qui est chère à notre cœur, qui a de la valeur à nos yeux, mais elle n'est pas chrétienne. Et en vivant avec elle, nous nous empêchons de bien obéir à Jésus. Voilà d'énormes sacrifices que nous pouvons faire, que nous sommes invités à faire pour suivre Jésus. Des sacrifices difficiles, des sacrifices coûteux. Jésus insiste sur le fait que chaque disciple doit calculer le coût de le suivre. Une simple profession de foi ne suffit pas. La volonté de suivre Jésus comme cet homme dans ce texte ne suffit pas. Souvenons-nous que Jésus vient d'enseigner. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Si nous voulons être disciples de Jésus, nous devons examiner le prix à payer pour cela. Mais même si cela peut nous coûter cher, ne faisons pas des calculs d'apothicaire, parce que l'appel de Jésus n'est pas seulement un appel coûteux, c'est aussi un appel urgent. Nous ne devons pas tarder à répondre à cet appel. Dans un deuxième temps, au verset 59 et 60, Jésus nous appelle un appel urgent. Il dit à un autre homme, « Suis-moi », début du verset 59. On remarque que dans ce cas, Jésus lance lui-même l'invitation. Dans la première fois, c'est l'homme qui est d'abord venu vers lui, et là maintenant, c'est Jésus qui lance l'invitation. L'homme ne se porte pas volontaire. Jésus l'invite à le suivre. C'est Jésus qui fait le premier pas. Mais l'homme répond, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père », verset 59. Alors, je ne sais pas vous, mais à première vue, cette demande semble raisonnable. Maintenant, la connaissance du contexte culturel de l'époque nous donne une image peut-être différente. Lorsque nous lisons la réponse de l'homme à l'invitation de Jésus, nous supposons que cette conversation a lieu entre la mort de son père et le service funèbre. Mais selon toute vraisemblance, il semblerait que le père de cet homme n'était pas encore mort. À l'époque de Jésus, comme dans certains endroits aujourd'hui, les Juifs enterrent leurs morts dans les 24 heures. Et de plus, les membres de la famille restent auprès du corps et de la personne décédée jusqu'à ce qu'elle soit enterrée. Donc par conséquent, si le père de l'homme est déjà mort, l'homme ne parlerait pas avec Jésus. Il serait à la maison en train de préparer l'enterrement de son père. Donc cela signifie que son père n'est pas encore mort, mais qu'il est sur le point de mourir. Et donc maintenant, que devons-nous penser de la demande de cet homme à Jésus lorsqu'il dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Encore une fois, à première vue, cela semble raisonnable. Les 10 commandements enseignent que nous devons honorer nos parents, prendre soin d'eux dans leur vieillesse. Voilà de belles manières de les honorer. Mais Jésus comprend qu'il y a quelque chose derrière l'idée de cet homme. Il comprend que cet homme se sert de sa situation familiale comme d'une excuse pour retarder sa formation de disciple. Cet homme, finalement, est en train de remettre à plus tard. Il entend l'appel de Jésus à le suivre dans sa vie, mais il ne le fait pas immédiatement. Il procrastine, il regarde sa situation, il hésite. L'attrait de sa famille est bien plus fort que l'attrait de suivre Jésus pour lui. Cet homme se dit peut-être qu'il veut retarder le moment de suivre Jésus jusqu'à ce que son père meure, parce que ça lui permettra de recevoir son héritage. Il sait que Jésus va quitter la région et que s'il part maintenant, il risque de perdre cet argent ou ses propriétés qu'il doit recevoir de son père. Mais Jésus répond, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Verset 60. La réponse de Jésus semble tellement dure envers cet homme. Mais si elle semble si dure, c'est parce que nous ne comprenons pas bien ce qu'il en coûte de suivre Jésus. Jésus ne dit pas que nous devons être insensibles ou indifférents à l'égard de nos proches, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être faites par d'autres. S'occuper de nos parents âgés en est un exemple. Pour nous, il s'agit de ne pas procrastiner, mais de répondre de manière urgente à l'appel de Jésus de le suivre. Peut-être vivez-vous des circonstances difficiles. Peut-être y a-t-il autour de vous quelqu'un qui est décédé récemment ou qui est sur le point de décéder. Peut-être entourez-vous quelqu'un qui est malade et vous faites beaucoup d'efforts pour prendre soin de lui. Peut-être aussi que vous avez des difficultés familiales dans votre couple, avec vos enfants. Peut-être encore que vous avez des difficultés au travail. Voilà beaucoup d'arguments que vous auriez dans votre cœur pour dire « Seigneur, laisse-moi d'abord passer par ces moments difficiles, mais ensuite je te suivrai. » Mais rien ne devrait nous empêcher de suivre Jésus. Pas même les circonstances difficiles par lesquelles nous traversons. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a dit qu'il veut nous aider et nous accompagner dans ces moments difficiles. Si nous devrions prendre la décision de suivre Jésus aujourd'hui, maintenant, c'est parce que la mort peut nous surprendre à tout moment. Si nous devons donc compter le prix à payer pour suivre Jésus, ne regardons pas dans le détail, mais prenons la décision rapidement. Prenons-la immédiatement. Jésus nous invite donc à le suivre. Et c'est un appel coûteux, c'est un appel urgent. Mais pourquoi donc obéir à cet appel coûteux et urgent ? Parce que cet appel est aussi un appel important. Troisièmement, au verset 61 et 62, Jésus nous invite à un appel important. Un autre homme dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Verset 61. Peut-être qu'il a entendu la réponse de Jésus à l'homme précédent et il ne veut pas attendre la mort de ses parents, il veut simplement leur dire adieu. Une fois de plus, cela semble complètement raisonnable. S'il a commencé à suivre Jésus immédiatement sans dire à sa famille où il s'en va, celle-ci pourrait se demander ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il lui est arrivé malheur? Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il faut aller le chercher? Donc, il serait certainement approprié de leur faire savoir ce qu'il fait, quels sont ses projets. En fait, il existe un précédent biblique pour ce qui est de faire adieu à sa de faire ses adieux à sa famille. Ce précédent se trouve dans le premier livre des Rois. Lorsqu'Élisée a répondu à l'appel de Dieu en quittant sa famille pour suivre le prophète Élie, il a été autorisé à faire ses adieux à sa famille. Élisée est rentré chez lui, il a brûlé sa charrue, abattu ses bœufs et a organisé un festin d'adieu avec sa famille. Alors Jésus a peut-être cet incident à l'esprit justement quand il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Verset 62. Pour voir le lien avec Élisée, pour bien l'étudier, nous devons examiner attentivement les deux situations. Lorsque Jésus a parlé de mettre la main à la charrue, il voulait dire que les courtoisies normales de l'affection familiale doivent céder le pas aux exigences primordiales du royaume de Dieu. Alors pour le dire plus simple, ça veut dire qu'il faut mettre la priorité sur le royaume de Dieu, sur notre Père céleste, plutôt que sur notre famille terrestre. Et le proverbe utilisé par Jésus indique que pour labourer des lignes droites, il faut regarder devant soi et ne pas se retourner sans cesse. Il faut regarder à Jésus, à Dieu, et ne pas regarder en arrière vers sa famille. Ce n'est pas ce qu'a fait Élisée. Lorsqu'il est rentré chez lui pour faire ses adieux, il a clairement rompu avec son ancien mode de vie. Il a brûlé sa charrue, il a abattu ses bœufs, il a fait ses adieux vraiment avec sa famille. D'un autre côté, l'homme qui veut suivre Jésus, lui, semble vouloir suivre Jésus, mais il aurait pu être tenté de rester chez lui. Et d'une manière ou d'une autre, Jésus discerne quelque chose d'autre qui est en premier dans son cœur. Jésus comprend que dans le cœur de cet homme, quelque chose est prioritaire. Et cette chose qui est prioritaire, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Cet homme, dans son cœur, a quelque chose de plus important que Jésus. Au fond, cet homme est idolâtre. Et c'est dans ce contexte, c'est pour cette raison que Jésus lui dit de ne pas se retourner en arrière, mais bien de commencer à le suivre immédiatement, maintenant. Le plus important, ce ne doit pas être ta famille, mais ça doit être moi, Jésus. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se débattent avec cela. Beaucoup de personnes mettent leur priorité ailleurs qu'en Jésus. Ils la mettent dans leur famille, dans leur travail. Nous, nous sommes invités à mettre Jésus en priorité dans nos vies, le mettre à la première place, à ne pas regarder en arrière vers ce que nous abandonnons, mais à regarder en avant, là où Jésus veut nous donner des choses. Suivre Jésus, cela implique un grand coup. Cela implique de le suivre immédiatement, de manière urgente, et de ne pas regarder en arrière, mais de le considérer comme ce qu'il y a de plus important sur cette terre. Alors maintenant, peut-être que vous aimeriez me dire, mais qu'est-ce qu'on reçoit pour tant de sacrifices? La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à marchander avec Dieu. Nous n'avons pas à marchander avec Dieu parce que Dieu nous a déjà tout donné. Jésus nous a déjà tout donné. Jésus, c'est le premier exemple de renoncement et d'abnégation. Il avait tout auprès de Dieu. Il avait l'intimité et l'amour éternel de son Père céleste. Une communion et un amour bien plus proche que celui qu'on peut imaginer entre un père et son fils, ici-bas sur la terre. Il avait toutes les richesses de cette gloire céleste, mais il a tout abandonné pour nous. Lui, le Créateur, il est devenu simple créature. Il est devenu un homme comme vous et moi. Il a souffert. Il n'avait rien. À peine de quoi s'habiller. Il a été insulté, maltraité. Mais il a continué à suivre Dieu. Et il s'est dirigé vers la croix. Sur la croix, il nous a acquis le pardon et la réconciliation avec notre Père Céleste pour avoir la vie éternelle, le bonheur éternel avec Dieu. Grâce à ce sacrifice énorme de Jésus-Christ, nous avons maintenant l'amour inconditionnel de notre Père Céleste, une communion intime avec lui. Il n'y a rien de plus précieux que nous ne pouvions recevoir que cela. Jésus a tout donné. Il a fait le plus grand sacrifice pour nous. Et maintenant, les sacrifices qu'il nous demande, peut-être qu'ils nous semblent coûteux. Mais ils le sont bien moins que ce qu'a coûté ce grand sacrifice pour lui. À cause de tout ce qu'il nous a donné, nous sommes invités à lui donner tout ce que nous avons. L'écrivain britannique C.S. Lewis a écrit « Le Christ dit « Donnez-moi tout. Je ne veux pas de votre temps, de votre argent » ou de votre travail seulement. Ce que je veux, c'est vous. Je ne suis pas venu pour tourmenter votre moi naturel, mais pour le tuer. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus-Christ. Je ne veux pas couper une branche ici et une branche là. Je veux abattre l'arbre tout entier. Je ne veux pas percer la dent, ni la couronner, ni l'arrêter, mais l'extraire. Remettez-moi toute votre personne, tous vos désirs, et je vous donnerai une nouvelle personne, un moi nouveau. En fait, je vous donnerai vous-même. Ma propre volonté deviendra la vôtre. Suivre Jésus, c'est le laisser nous remplir de sa volonté. Et cela implique de renoncer à tout pour le suivre. Cela peut sembler un grand sacrifice, mais cela conduit, débouche sur une vraie joie. Le journaliste britannique Malcolm Muggeridge a déclaré un jour « Je peux dire que je n'ai jamais su ce qu'était la joie avant d'avoir renoncé à poursuivre le bonheur ou que je ne me suis jamais soucié de vivre avant d'avoir choisi de mourir. Et pour ces deux découvertes, je suis redevable à Jésus. » Pour connaître la vraie joie et la bénédiction, nous devons mourir à nous-mêmes et suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant, peut-être que cela paraît difficile. Et c'est pourquoi nous sommes tous invités, appelés à prier Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui ton Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit nous remplisse de ta joie et nous aide à nous donner entièrement à toi, quand bien même cela me coûte ma famille, mes relations, mon travail, mon confort personnel. frères et sœurs, donnons tout à Jésus et suivons-le de tout notre cœur aujourd'hui. Laissons son Saint-Esprit agir en nous. Et prenons pour nous-mêmes cette phrase. Si je perds tout, sauf ma relation personnelle avec mon Seigneur Jésus-Christ, cela en vaut quand même la peine. Nous prenons quelques temps pour considérer ceci pendant que les musiciens se mettent en place.